En septembre, avant qu'on nous ordonne de rester chez soi, plusieurs spectateurs ont pu découvrir un film très curieux, La dernière plongée de Dave, Dave Not Coming Back, dans sa version originale en anglais. Le film marchait très bien en salle et tout à coup, on a fermé les salles. Heureusement, le film nous revient ces jours-ci en ligne et on a le plaisir d'avoir avec nous Jonah Malak, le réalisateur du film. Bonjour, Jonah.
Bonjour.
Il faut dire en deux mots, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir le film en septembre, que c'est une très curieuse histoire. C'est l'histoire d'un plongeur, mais le mot plongeur ne veut rien dire dans le vocabulaire courant, qui fait une plongée dans une caverne de plus de 200 mètres et pour aller récupérer un plongeur qui lui-même y a perdu la vie il y a 10 ans. Bon, et votre film est un peu l'histoire de cette plongée, de ce retour qui est très curieux parce que le film a un côté, il y a presque un suspense dans le film, mais au-delà de ça, il y a une espèce d'aventure spirituelle parce que cette volonté d'aller dans des profondeurs semblables, ça échappe à la logique.
Oui, tout à fait. Donc, ce sont deux amis qui décident de battre un record dans une caverne en Afrique du Sud et qui plongent 280 mètres, en fait. Et Dave lui prend 17 minutes pour toucher le fond, mais 12 heures pour remonter à la surface après ça. Et ayant touché le fond, il trouve un corps. Et il l'annonce à tout le monde. J'ai trouvé un corps qui était décédé 10 ans plus tôt. Et il décide de replonger, lui et son ami et 8 autres plongeurs, et les parents de la personne qui est décédée, et la police et les journalistes, pour aller chercher ce corps-là. Et le titre du film, c'est « Dave Not Coming Back ». Donc, c'est un punch sans lettre non plus. Cet équilibre, cette balance entre raconter une histoire qui soit un suspense, qui nous tienne en haleine, qui utilise les codes du thriller qu'on peut retrouver dans des films, vraiment dans des films noirs ou des romans policiers, etc. Tout en même temps explorer la profondeur de la profondeur humaine de personnages qui vivent des dilemmes que nous ne vivons pas dans notre vie quotidienne. Autant au niveau du deuil que de la prise de risque, que du désir de fuir la vie à la surface pour aller se réfugier dans des profondeurs qui pour nous semblent être extrêmement dangereuses, mais pour eux c'est là où ils se retrouvent être le plus en contact avec eux-mêmes. Et une grande difficulté de raconter le film, du storytelling comme on dit en bon français, c'était de trouver le bon équilibre entre rester concentré sur l'histoire, mais en même temps, explorer les complexités des personnages dans des situations qui, elles aussi, sont complexes.
Oui, parce qu'il y a un mystère autour de leur entêtement à aller dans des profondeurs semblables. En plus, c'est pour ça que le mot « plongeur » nous met presque sur une fausse piste. C'est sûr que c'est de la plongée, mais en même temps, c'est des spéologues, ces gens-là. Il se passe quelque chose qui nous échappe.
Oui, on peut combiner plusieurs mots pour les décrire. Donc, on peut dire ce sont des plongeurs, ça va de soi, mais ce sont des plongeurs techniques, ce sont des explorateurs, ce sont des spéléoplongeurs, ce sont des spéléologues. Explorateur est un mot qui peut les décrire parce qu'ils vont dans des lieux qui n'ont jamais été accédés par un être humain avant. Mais en même temps, ce n'est pas de l'exploration au sens Christophe Colomb, arriver à un point où nul être humain n'a été avant et en revenir sain et sauf. Et ça prend des personnalités très, très précises. Ça prend des gens qui soient introvertis, qui soient en connexion avec leurs émotions, qui soient en connexion avec leurs complexes. Plus ils sont en connexion avec leurs émotions, ils sont capables de les dire, ce qui fait que ce sont des gens éloquents. Et quand on fait des entrevues pour un réalisateur documentaire qui fait une entrevue avec des gens profond, introverti et éloquent, c'est du bonbon parce qu'il nous livre des choses et une fragilité qu'on n'aurait pas pu trouver autrement dans un milieu qui est quand même assez, je ne veux pas utiliser le mot macho, mais où la mise en scène de soi, de qui peut battre le plus grand record,
oui,
etc.
Oui,
et de mise...
où la performance aurait été mise au premier plan, ce qui n'est pas le cas du tout. Ce qui nous touche beaucoup, c'est le côté passionné de ces personnages-là, passionné et avec une capacité de faire face aux risques qui est exceptionnelle.
On a essayé d'explorer cette question dans le film et pourquoi Dave est un être humain des plus normaux si on regarde son CV sur papier. C'est un pilote d'avion, de ligne aérienne, donc vraiment pas casse-cou, marié, des enfants, la bonne petite vie, assez confortable. C'est pas, on le voit de loin, on se dit c'est la classe moyenne tout à fait normale. Tout d'un coup, cet homme-là profite de chacune de ses vacances pour aller explorer des fonds marins qui n'ont jamais été explorés avant, se mettant à risque tout le reste de sa vie. Et on se pose la question, pourquoi ? Et on la pose pour tout le monde. Pourquoi un père de famille ferait ça ? Pourquoi un mari ferait ça ? Pourquoi un professionnel ferait ça ? Et on n'a jamais vraiment la réponse. Donc, à chaque fois qu'on l'aborde dans le film, on essaie d'explorer les différentes facettes et ça finit toujours par une question. Il y a un des personnages dans le film qui dit qu'elle aussi avait battu un record de plongée. Elle dit, à chaque fois que je vois ces plongeurs-là, je me dis, quel est ce vide qu'ils ont en eux-mêmes qu'ils ont besoin de combler par, en faisant ce qu'ils font.
Oui, oui.
C'est tout. C'est une question.
C'est pas... le cas de son ami Don, qui est interviewé fréquemment dans le film et qui nous livre quelques clics pour comprendre qu'est-ce qui fait que ce pôle-là de leur vie prenne une importance semblable. Mais et comment vous êtes tombé sur cette histoire-là? Comment, Jonah, vous saviez l'existence de ces gens et de leurs exploits?
C'est mon frère et moi sommes plongeurs. Mon frère a commencé à plonger bien avant moi et il est un plongeur technique et spéléoplongeur de très haut niveau. Moi, je suis un plongeur, ce qu'on appelle récréatif, et je me suis mis à faire de la plongée précisément pour réaliser ce film. Donc Marwan, pendant qu'il faisait de la plongée, avait entendu parler de cette histoire et il m'en a parlé à 3 heures du matin. Avec, après quelques bières et quelques vins et quelques... Voilà. Et il me dit, il y a quelqu'un qui a plongé pour récupérer un corps dans une grotte. C'était un record et il est mort. Et moi, j'étais comme, écoute, il est 3 heures du matin. Très bien, tant pis pour lui, tant mieux pour toi. Je ne sais pas quoi te dire, moi, je vais me coucher. Et ça l'a provoqué. Donc, il s'est mis à faire de la recherche... dans les jours qui ont suivi, de plus en plus approfondi. Et il commençait à m'arriver avec des nouvelles au compte-gouttes. Il n'était pas seul, il était accompagné d'un ami. Il, avec S, n'était pas seul, ils étaient une équipe de 8 personnes. Ça lui prenait 17 minutes pour toucher le fond, mais 12 heures pour remonter à la surface. Et donc, peu à peu, ces infos commençaient à m'arriver dans les jours qui ont suivi. Et ça a culminé avec le fait de savoir qu'il y avait un caméraman qui filmait, qui avait filmé tout ce qui se passait à la surface. Moi, en tant que documentariste, je me suis dit, OK, that's it. On a tout ce dont on a besoin pour faire un film.
Vous avez eu rapidement accès aux documents filmés?
Non, ça a pris 2 ans.
Et ça, c'était en Afrique du Sud, tout ça? Parce qu'on voit des éléments de la télé, puisque l'événement avait été couvert par la télé. Les images les plus troublantes avaient même été diffusées par la télé.
Oui, toutes les images étaient plus ou moins publiques. Il y a les images les plus troublantes, je n'irai pas dans les détails de ça, non. Parce que c'est le plus gros punch du film. Mais il y avait 14 heures d'images qui avaient été filmées à l'époque, à la surface, pendant que l'événement avait lieu. Et ce sont ces images-là auxquelles j'ai pu avoir accès. Donc, j'ai commencé par les voir toutes. J'ai vu les 14 heures, j'ai sélectionné les bouts que je trouvais les plus pertinents pour le film. Et c'était le point de départ pour la réalisation du film. Ce qui était une réalisation assez difficile parce que le point de départ, c'est déjà des images que je n'ai pas moi-même réalisées, que je n'ai pas moi-même prises. Dave est décédé et donc les seules images que j'ai de lui sont celles qui ont été tournées par un autre caméraman. Il fallait que et mon point de départ me tenait pieds poings liés dans l'esthétique du film. Et tout le reste a coulé de ça, en fait.
Oui, mais vous avez tourné Dawn, par exemple. Les entrevues avec Dawn, c'est vous-même qui les avez tournées.
Tout à fait.
Et avec sa complicité, il a été d'accord rapidement de s'associer au projet.
Il voulait... Ces gens-là avaient vraiment très envie de que leur histoire soit racontée. Ils pensaient qu'il y avait une sorte de closure, une sorte de deuil qui n'était pas complet avant que le film ne le soit, parce qu'ils avaient déjà l'intention de faire un film à l'époque. C'est pour ça qu'il y avait un caméraman qui filmait. Toutes les images du film sont celles que nous avons tournées, sauf les images qui sont... clairement télé, donc elles sont carrées, il y a de l'espace noir à droite et à gauche de l'écran, donc elles sont en format 4 tiers. Celles-là, on les a récupérées, mais toutes les entrevues, c'est nous qui les avions menées. Toutes les images sous l'eau sont celles qui ont été tournées par mon frère et Don, qui a rejoué lui-même son propre accident.
Et vous êtes allé, donc vous êtes retourné à Kalahari pour filmer?
On a filmé. Don est un professeur de plongée qui a un centre de plongée, lequel centre est une mine submergée qui fait 200 mètres de profondeur à peu près avec des kilomètres et des kilomètres de galeries. Et cette mine se trouve dans une ferme qui elle-même se trouve dans une réserve de 1 million d'hectares à 4 heures de Johannesburg. Donc déjà, juste pour arriver là où il habite, il faut rouler en voiture un bon 30 minutes dans une réserve naturelle avec des lions, des guépards, des girafes, des pumas. C'était la première introduction que j'avais eue pour Don. Genre une demi-heure de voiture à essayer d'éviter des chats sauvages avant d'en arriver là. Donc on a été chez lui, on a tourné là-bas et on a tourné dans sa mine. Donc on a plongé dans la mine et on a tourné dans la mine où il enseigne. Et après ça, on a été à la grotte où l'accident a eu lieu. Et nous avons tourné là-bas aussi avec lui. Donc, il a plongé dans le lieu de l'accident et on a pu récupérer toutes les images qu'on voulait là-bas.
Au générique, il y a le nom de l'Australie aussi. Mais il y a du tournage en Australie dans le film?
Dave est australien à la base.
Ah oui.
Et sa femme habite en Australie.
Habite toujours en Australie. C'est ça. Oui. Mais Dave, il venait... faire de la plongée en Afrique du Sud, alors.
Dave était foualier. Ce sont des histoires qu'une fois qu'on commence à les raconter, elles n'en finissent plus. Il était pilote d'avion. Et donc, quand il faisait de la longue distance entre l'Australie et l'Afrique du Sud, il était obligé de prendre une ou deux journées de repos. En tout cas, c'est les conditions qui sont mises par l'aviation internationale. On ne peut pas enchaîner l'aller-retour d'affilée. Et donc, il étendait son séjour de 3 jours et en profitait pour aller à 4 heures de Joburg, plonger, passer une journée de rétablissement et revenir, reprendre l'avion du retour que lui-même conduisait d'ailleurs.
Mais c'est une anecdote qui complète très bien le personnage.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'était un peu comme ça que c'était prévu pour faire la plongée de récupération du corps. Il prenait une semaine off, et il organisait toute la plongée, et après il revenait, il reprenait sa vie normale.
Oui.
C'est comme moi, c'est du multitasking qui me dépasse, mais de loin, moi, si j'ai 2 pages Word qui sont ouvertes sur mon écran, là je suis mêlé. Et là on voit quelqu'un avec un cerveau qui roule à 1000 à l'heure.
Oui, oui. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de voir vos films précédents, mais ce que j'en sais, il me semble que ce nouveau film est très différent de ce que vous avez fait antérieurement.
Oui et non. C'est-à-dire, il est différent. Tiens, c'est une bonne question, ça.
C'est une question au piège, ça.
Oh, du tout. C'est une question à laquelle j'aimerais répondre, mais dont la réponse est très subtile. Et au fait, je pense qu'elle touche à ce qu'on appelle le style d'un réal ou d'un artiste ou d'un... Et le style, c'est ce qui est, je dirais, se manifeste dans le langage de montage ou de réalisation malgré nous. C'est-à-dire, ce sont des choses que moi, je fais du montage, je travaille, je fais mon film, et tout d'un coup, je vois qu'il est très semblable à mon film précédent, alors que le sujet est différent, les outils que j'ai utilisés sont différents. Donc ici, j'ai de l'entrevue dans mes films précédents, c'est du cinéma direct. Ici, j'ai des personnages. Dans mes films précédents, c'était des représentations anthropologiques de phénomènes qui avaient lieu au Liban, phénomènes religieux. Ici, j'ai plusieurs langages, des choses qu'on avait filmées, aussi des archives, etc. Là-bas, c'était que ce que nous avions filmé avec des plans larges, sans personnages, sans voix off, sans entrevue, sans rien. Et pourtant, une fois que je finis le travail, je compare les deux films et je trouve que la similitude est beaucoup plus profonde que je ne pensais qu'elle l'était. Mmh. Et c'est ce que j'appelle, c'est mon style qui rejaillit malgré moi, en fait.
Mais c'est vous-même qui avez monté tous les films ?
Oui, c'est moi qui... je suis monteur aussi avant même que d'être réal. Et ce que je trouve qu'il est similaire, c'est le désir d'avoir un storytelling qui soit très serré et qui offre au public la contemplation de ce qui est effroyable, de ce qu'on n'aurait jamais... On ne se serait pas permis de regarder dans la vie réelle parce que c'est trop intense. Et de dire non, là, on va prendre une heure et demie puis on va le regarder de plus près. C'en est ainsi pour mon premier long métrage qui a été qui est aussi une expérience assez intense pour le public, en tout cas des retours que j'ai quand on m'en parle.
Oui, mais c'est bien le cas de la dernière plongée où une fois qu'on est embarqué dans le film, il n'y a rien à faire. On est obligé de se rendre à la fin et c'est une expérience très particulière. D'ailleurs, j'ai lu en quelque part que le cinéaste qui ne vous a pas nécessairement influencé, mais auquel vous êtes très attaché, c'est Herzog. Et effectivement, compte tenu de ce film-ci, j'imaginais très bien la parenté... Dans votre rapport à des gens un peu hors du commun, qui prennent un peu trop d'espace.
Et oui, Herzog est un... Comment dire, je voyais ses films en boucle et en boucle et en boucle, et c'est ce genre de réal qui est en même temps très personnel dans la façon de faire ses films, mais en même temps très accessible au public. Donc une fois qu'on embarque dans son film... On n'a pas besoin d'être cinéphile pour être accroché. Il y a quelque chose qui nous happe. Il est subversif dans l'usage de techniques standards, disons l'entrevue. C'est une technique de storytelling qui est très, très commune en documentaire. Mais lui, il va la subvertir, comment il la montre, comment il montre le personnage avant le début de l'entrevue, après la fin de l'entrevue, et qui nous donne un rapport à ces gens qui est beaucoup plus intense. Tout en utilisant des techniques qui sont standards. En plus, il a une éthique que moi, j'admire beaucoup parce que il aime ces gens, il aime ces personnages, il aime ces histoires et en même temps, il a du recul pour garder un certain degré d'ironie, un certain degré de distance et surtout forcer le public à garder une distance par rapport à ces personnages et de ne pas embarquer dans leur folie, de la comprendre, de l'admirer, mais de ne pas prendre pour acquis tout ce que le personnage leur dit. Mmh. Et cette indépendance-là du réalisateur vis-à-vis des gens dont, de l'histoire de qui il est garant est un équilibre très difficile à maintenir.
Mais c'est ce que vous décrivez, c'est de fait votre rapport vous-même à Dave et à Don. Mais il doit y avoir dans ça une sorte de frustration pour vous de vous attacher au personnage de Dave, que vous n'avez jamais rencontré, évidemment.
Non, ça a été très... comment dire, c'était une donnée de base.
C'est-à-dire, oui, bien sûr.
Je savais à la base, je ne peux jouer qu'avec ce que j'ai déjà de présent comme image d'archive concernant Dave. Et donc, du coup, ce n'était pas une frustration autant que c'était une contrainte à gérer. Et plus il y a de contraintes, pour moi, en tout cas, hein, tout le monde ne travaille pas de la même façon, mais pour moi, plus il y a de contraintes et plus ma créativité est canalisée et elle est mise en marche. Quand j'ai une page complètement blanche, là, je peux m'y perdre complètement. Mais si je me dis, OK, voilà les éléments de base que j'ai, il faut que je parte de ça. Y a un processus créatif qui se met en marche que moi, j'aime beaucoup. Challengeant, il faut le dire.
Là, le challenge est bien relevé parce que le spectateur, d'une part, apprend des choses dont peu de gens connaissent l'existant. Et en plus, il y a une véritable émotion qui traverse le film. On est tenu à la fois par la curiosité de savoir mais qu'est-ce que c'est que cette entreprise-là, mais aussi parce qu'on est terriblement ému par la passion qui anime ces gens-là. et qui va, dans le cas de Dave, le mener très loin, évidemment. Eh bien, j'espère que, malheureusement, les salles sont fermées, mais qu'au moins, les gens vont aller en ligne. Le film est maintenant disponible sur les plateformes du cinéma du Parc et du CLAP. Et il y a des festivals qui commencent à s'y intéresser en plus. Alors, vous allez vous balader un peu avec Dave pour quelques temps.
Oui, me balader sur Zoom surtout, parce que la plupart des questions, des séances de Q&A se font maintenant sur Zoom. Mais oui, il est sur... comme vous avez dit, il est sur le site du CLAP et le site du cinéma du Parc. Et ce n'est pas une expérience moindre de le voir chez soi que de le voir en salle. Bien entendu, en salle, il y a toujours ce... En plus, avec les images sous l'eau et le traitement sonore, il y avait une expérience en soi. Mais l'histoire est assez forte pour nous tenir en haleine sur de petits écrans, chez soi, avec deux ou trois personnes. C'est aussi conçu pour ça.
Très bien. Merci beaucoup, Jonathan.
Merci à vous.